Dieu dit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La responsabilité de choisir nous incombe. Choisir quel livre nous allons lire, quel film nous allons regarder, qui nous allons écouter. Choisir, c'est faire l'exercice de la liberté. Ne pas choisir, c'est rester à la croisée des chemins. La liberté, c'est de dire oui à l'un et non aux autres. Ne pas choisir, voilà le véritable esclavage. Nous sommes des êtres influençables et beaucoup prétendent être nos maîtres. Un seul est notre maître, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le lieu de notre repos. Alors, vous l'avez compris, ceci n'est pas de moi, mais de... Il n'y en a qu'un ici qui sait, alors. Alors, c'est un clin d'œil. Hein. C'est notre pasteur, dans une vidéo sur YouTube intitulée « Stabilité et liberté sur Abraham ». Alors, loin de moi, l'idée de plagier Laurent, dont j'apprécie beaucoup les vidéos qu'il fait. Je le lui dis et je lui en suis reconnaissant. C'est aussi un clin d'œil. Mais j'ai voulu rebondir quand même sur ce thème de l'esclavage ou la liberté. Et cela pose la question cruciale de nos choix dans l'exercice de la liberté. En plagiant Pilate, on pourrait dire, qu'est-ce que la liberté ? Voyons ce que dit l'Évangile au chapitre 8 de Jean. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. » Alors, l'idée ne m'est pas venue de parler de l'esclavage ou de la liberté en regardant cette vidéo de Laurent, mais cet été, à Nantes, pendant nos vacances, nous avons vu le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Et ce que vous voyez là, ce sont des petites plaques métalliques au sol. C'est les noms de tous les bateaux qui transportaient des Noirs arrachés à leurs terres africaines entre le XVIIe et le XIXe siècle pour servir d'esclaves dans les champs de coton. Nantes a été la plaque tournante de ce trafic honteux de la traite négrière. Avec plus de 1700 expéditions, 4200 pour toute la France. Sur des plaques métalliques murales. On pouvait y lire l'évolution des lois jusqu'au décret d'abolition de l'esclavage. Vous voyez là la date dont la France a aboli l'esclavage. Il est écrit avril 1848, mais en réalité c'était au mois de juin 1848, après d'âpres négociations et conflits. Aux États-Unis, il y a eu la guerre de sécession qui a déchiré le pays entre les nordistes en faveur de l'abolition et les sudistes en faveur de l'esclavage. Et c'est le président Abraham Lincoln qui mit fin à cette guerre en libérant définitivement les esclaves en janvier 1863. Alors on pourrait penser que l'esclavage ne nous concerne pas et que cette époque est révolue. Mais détrompez-vous. L'esclavage existe toujours, même dans nos pays. Il impose le choix d'un maître pour ravir ce choix à ses sujets. Dans certains pays, essentiellement musulmans, l'esclavage est toujours pratiqué, d'autant que le Coran l'encourage et Mahomet avait des esclaves. Femmes mariées de force, dont des petites filles, soumission absolue aux hommes, polygamie, application de la charia. Dans des pays africains ou asiatiques, des femmes et des enfants sont vendus pour servir de maîtres, des maîtres, mari ou proxénètes. Ils servent de main-d'œuvre à bon marché dans une entreprise de confection pour vendre des produits hors de prix en Occident, travaillant jusqu'à 16 heures par jour dans des conditions inhumaines. En Afghanistan, on l'a vu la semaine dernière, lors de du dimanche de l'église persécutée, des femmes sont traitées en êtres inférieurs par les talibans ou Daesh, ombres muettes et fantomatiques. Même chose en Iran, au Pakistan, et l'Algérie en prend le chemin. Dans nos pays, il prend une forme plus subtile. S'il existe des propriétaires qui utilisent des employés sans les rémunérer, souvent clandestins, dans des conditions déplorables, la loi l'interdit et le réprime. Certains sont exploités par des passeurs pour un embarquement vers une destination de rêve, le paradis européen, illusion miroitée et bien vite déçue. Il y a des réseaux de prostitution, de traite de blanches, filles de l'Est, séduites par des racoleurs pour un emploi lucratif en Europe et à qui on retire les papiers dès qu'elles arrivent ici. Mais il y a aussi des patrons qui abusent de leur autorité pour malmener, harceler leurs employés jusqu'à les acculer au burn-out ou à la démission. Cela se solde le plus souvent par des procès devant les prud'hommes. Pour avoir fait de nombreux contrôles d'arrêt maladie, à la demande de l'employeur, je peux attester que beaucoup d'employés sont pressés comme des citrons, malmenés, méprisés, tiraillés jusqu'à l'extrême pour partir sans compensation, les étranglant comme un goulot et les mettant dans une situation financière impossible et induisant dépression et suicide. On se rappelle de cette grande entreprise française où le PDG de la boîte a été condamné par la justice parce qu'il y a eu 60 suicides pour harcèlement au travail. Des adeptes sont esclaves de gourous ou de sectes intransigeantes. Des toxicomanes sont esclaves de dealers ou de trafiquants de drogue. Des maris despotes qui considèrent leurs femmes comme des esclaves ou des bonnes. Des prêtres pédophiles qui considèrent des enfants comme des jouets. Et des pervers narcissiques qui veulent qu'on les serve. Des dictateurs qui se jouent de leurs sujets. Jésus a dit « les chefs des nations les tyrannisent ». Des suprémacistes blancs, en particulier aux États-Unis, qui considèrent que la race noire a été créée par Dieu pour être esclave des blancs. Des hommes et des femmes sont esclaves de l'alcool, du tabac, des jeux vidéo, du jeu, du sexe, de l'argent, du pouvoir, des passions et des ambitions, esclaves en quelque sorte du péché. Mais nous ne sommes pas de reste. Bien inconsciemment, notre monde, et surtout notre monde occidental, nous a rendus esclaves du temps. On en a parlé. Nous sommes toujours pressés, stressés, comprimés par des impératifs temporels, le travail, la maison, le jardin, les enfants, et on a peu de temps pour les loisirs. On ne sait plus se reposer, car même pendant les vacances, on veut en profiter au maximum. Et il y en a qui rentrent des vacances encore plus exténués qu'en partant, tellement il y avait de choses à voir. Je suis toujours étonné, quand je vais dans une grande ville où il y a un métro, de voir les personnes qui courent dans les escaliers ou les escalators pour gagner quelques secondes pour attraper la rame, alors que les rames passent toutes les 10 minutes. Ces personnes courent tellement vite que même leur ombre n'a pas le temps de les suivre. Et à tel point que moi aussi, je me surprends dans ces villes où je vais en vacances à courir dans les escaliers. C'est l'imitation. Un Touareg a dit à un homme occidental, « Vous, vous avez la montre et nous, nous avons le temps. » En Afrique, en effet, un car ne partira que quand il sera plein. Et les gens attendent, sans rechigner, car ils ont le temps. Nous, si le bus a une minute de retard, on peste. Dans mon cabinet, j'ai vu tellement de gens angoissés, stressés, parce qu'ils n'arrivaient pas à assumer toutes les choses qu'ils devaient faire, à tel point que certains en arrivaient au burn-out. Dominique nous en a parlé. Une étude a été faite sur le sentiment de manquer de temps. En 30 ans, ce sentiment est passé de 28 à 78%. Alexandre Solzhenitsyn disait « L'empressement est une maladie grave de notre siècle. » On n'a pas la culture du temps et du repos, il faut bien le reconnaître. Même nous, chrétiens, nous sommes formatés à l'ère du temps. J'ai vu il y a 3 semaines à la télévision un reportage sur ces personnes qui plaquent tout pour se refaire une autre vie. Souvent des cadres d'entreprise, des responsables de société, des gens d'affaires, qui, pour ne pas en arriver au burn-out, décident de vivre autrement pour se rendre maître de leur destin. Ils partent en famille, en bateau, faire le tour du monde, ou décident de vivre à la campagne pour s'occuper d'une ferme, d'un élevage de chèvres, faire de l'artisanat. L'impression, en tout cas, de se rendre libre et de pouvoir respirer, de ne pas étouffer dans ce carcan d'une société de toujours plus, plus vite, plus rentable, plus efficace, mais plus déshumanisante. L'été dernier, nous avons été bénévoles dans un camp en Bretagne, à Saint-Lunaire. Et en dehors de nos activités, nous étions sur nos portables pour voir les infos sur Google. À tel point qu'une autre bénévole a dit devant tout le monde « Waouh, les barres, c'est des accros au portable !» Puis, le 2 octobre, Elodie Raza nous a parlé de cette dépendance au portable. Un dimanche, Laurent a prêché sur Halloween, sur ceux qui nous accrochent et peut-être notre idole, comme les portables et les réseaux sociaux. Et il nous a encouragés à nous s'ensevrer pour faire des choses plus utiles pour notre âme. Eh bien, je me suis senti concerné. 3 choses. Du coup, j'ai décidé de supprimer ce temps que je passe sur Google Info. Et j'y ai passé, c'est vrai, depuis que je suis en retraite, une demi-heure matin dans l'après-midi et le soir. 1h30. J'ai gagné 1h30. De toute façon, les infos, je les entends à la télé midi et soir. À la télé, voilà. Mais je vois beaucoup de gens et de jeunes qui sont toujours leur portable à la main, ou scotchés dessus dans les transports, les sorties d'école, en groupe. C'est l'outil indispensable pour chatter de manière triviale le plus souvent et même la nuit, d'où certaines insomnies. Cela crée une véritable dépendance, c'est-à-dire une drogue. Oui, c'est une drogue et on y est soumis aussi. Et je vous encourage, comme Laurent l'a dit et comme moi je le fais ce matin, à vous sevrer de ce qui n'est pas indispensable. Un jour, j'ai reçu sur mon portable une mise en garde du directeur général de la gendarmerie nationale, Monsieur Christian Rodriguez, pour avoir visionné et détenu des images pédopornographiques et qui me demandait des explications avant une éventuelle mise en examen. Je suis allé sur Internet et j'ai bien vu qu'en effet, Monsieur Christian Rodriguez est le directeur national de la gendarmerie. Il est général. Je ne me suis pas inquiété du tout parce que je ne vais jamais sur les sites pornographiques. Mais si cela avait été vrai, j'aurais été harponné par un maître chanteur. Et je suis persuadé qu'il y en a qui répondent. Je suis allé à la gendarmerie de Challes-les-Eaux et je leur ai montré. Ils m'ont dit, oh mon pauvre monsieur, on en reçoit tous les jours. Ne répondez pas, c'est des arnaques. Mais les chrétiens même peuvent tomber dans ce piège de la pornographie. C'est tellement facile. On est chez soi, devant son ordinateur ou son portable, tranquille, à l'abri des regards, et c'est gratuit. Alors je dis, méfiez-vous, car c'est le poison qui va tuer votre âme de manière insidieuse et qui va graver dans votre mémoire ces images. Quand j'étais au lycée, en internat, les copains, pour me dévergonder, j'avais à peu près 15-16 ans, et je n'étais pas chrétien, ils m'avaient passé des magazines pornographiques. Et je les ai regardés. Eh bien, je peux vous dire que 50 ans après, ces images sont toujours en mémoire. Je ne les ai pas oubliées, et je pourrais les reconnaître sans problème. Une étude a montré qu'un enfant sur deux en primaire et 100% des collégiens et lycéens ont déjà vu des images pornographiques. C'est affolant. Ne vous y mettez pas. Ne tombez pas dans ce piège si vous voulez être libre dans votre âme aussi. Martin Luther King disait « Personne ne fera de vous un esclave si vous ne pensez pas comme un esclave ». Autrement dit, si vous refusez de vous laisser asservir en faisant le bon choix, Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu nous a créés libres et même libres de choisir de l'aimer ou de le rejeter. Seulement, l'homme croit qu'être libre, c'est aussi et peut-être surtout de pouvoir se débarrasser de Dieu. Or, la liberté absolue n'existe pas, n'est libre que celui qui a choisi sa servitude. Quand je me marie, je choisis de perdre ma liberté pour me lier à ma femme ou à mon conjoint. Ce qui exclut tout adultère. Quand je demande une embauche, je choisis de me mettre sous l'autorité d'un patron. Quand je veux faire du sport, je choisis de m'entraîner et donc de souffrir pour me préparer à la victoire. Le philosophe Sénèque disait « Obéir à Dieu, c'est être libre. » Un peu comme cet esclave qui, après avoir été affranchi par un bon maître, choisit de rester avec lui sous sa protection, car il savait qu'auprès de lui, il était en sécurité. Être chrétien, n'est-ce pas d'avoir choisi son maître et Seigneur Jésus-Christ ? Jésus disait, si vous demeurez dans mes disciples, la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faisait référence à la servitude du péché qui est la cause de tous les esclavages et de toutes les oppressions. Christ nous a affranchis car nous avions pour maître le prince des ténèbres, Satan. Et il l'a fait en s'offrant lui-même à la croix. Colossiens 2,14 dit « Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. » Celui qui est libre du péché est débarrassé du mal qui était en lui. De tyran, il peut se faire serviteur à l'exemple de Saul, l'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'Église, mais qui est devenu esclave de la justice. Christ nous a libérés de l'esclavage du péché en prenant notre condamnation dans le jugement de Dieu. Lui juste est mort pour des injustes. Lui sans péché a été fait péché pour nous sur la croix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, rendus à la vie, libres. Libre, c'est le mot que Martin Luther King a prononcé lors de la manifestation devant le Lincoln Memorial à Washington, le 28 août 1963, dans son célèbre « J'ai fait un rêve ». Car oui, il y a une véritable aspiration des peuples ou des individus à vivre libres, sans être oppressés par des tyrans, comme on peut le voir en Ukraine, en Afghanistan ou encore en Iran, avec cette révolution. Libre de choisir ses voies selon sa conscience, selon ses vœux, dans un pays en paix, de croire ou non, sans être obligé de suivre une voie dictée par autrui. Libre aussi de choisir à qui on confie son destin. Choisir son maître si l'on a goûté que celui-ci est bon. Pour nous chrétiens, notre soumission suprême, c'est à Dieu seul que nous la devons. Si nous sommes soumis aux lois et aux autorités pour le bien commun, le savoir-vivre en société, le respect des autres, c'est dans la mesure où elles ne viennent pas s'opposer à la loi divine. L'Écriture nous demande d'obéir aux lois et aux magistrats, mais elle nous dit aussi il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le premier siècle de notre ère, l'empereur demandait une soumission absolue à ses sujets, se prenant pour Dieu, c'est-à-dire une allégeance totale envers lui. Les hommes devaient se prosterner devant lui et les chrétiens aussi, ce qu'ils refusaient de faire. Et pour cela, ils étaient persécutés et mis à mort. C'est ce qui se passe encore pour l'Église persécutée. Les chrétiens se prosternaient seulement devant Dieu. Ils mettaient un genou à terre et ils appliquaient littéralement ce que dit Paul aux Philippiens. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je suis toujours très ému lorsque les chrétiens noirs américains avec Martin Luther King, lors des manifestations en faveur des droits civiques dans les années 60, et malgré la répression sévère des autorités, plier le genou à terre en signe de soumission à Dieu seul. Il le faisait en priant et en chantant des chants chrétiens, des gospels, comme « Oh Freedom ». Il faisait le choix de n'obéir et de ne servir que Dieu seul. car par lui seul, il pouvait être libre. Malgré l'oppression et la prison, ils étaient en paix et se sentaient libres. Car ils croyaient fermement à cette parole du Christ, « Je vous laisse ma paix. Je vous laisse, je vous la donne, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ils montraient ainsi au monde leur allégeance au Christ seul, leur Seigneur. Où en êtes-vous de vos choix ? Sont-ils guidés par vos préférences, vos envies, vos désirs intimes, vos tentations, ou par une obéissance à Christ qui est la porte étroite et le chemin resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, je ne l'ai jamais demandé depuis que je suis dans cette église et que je n'ai jamais vu dans aucune église. C'est de montrer de la même manière votre allégeance à Christ seul. Pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent, maintenant, de mettre, comme je vais le faire, un genou à terre. Et vous pouvez prier et chanter en même temps, comme Martin Luther King, car lui seul doit être votre Seigneur. Et lui seul peut vous redonner la paix. L'apôtre Thomas, quand il a vu Jésus ressuscité, il a plié le genou à terre et il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu, et je plie le genou, vous êtes invités à le faire si vous voulez bien, et de prier votre Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne, moi, de ce que je suis, du nom que je porte de chrétien, mais je veux ici exprimer que mon allégeance est à Christ seul. Je suis à toi, mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Sauveur. Tu as tout payé pour moi. Et je veux te louer. Que ton nom soit béni. Amen.
Amen.
Affirme le Seigneur que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Affirme que même lorsque je chute, tu es toujours présent. J'affirme ton amour pour moi. Je te loue, Seigneur, de ce que tu es.
Amen.
Amen. Merci pour la liberté que nous avons de proclamer ce matin. Donne-nous aussi la force si un jour on doit choisir pour la persécution, devant le subir à cause de ton nom, Seigneur, comme le dit beaucoup de chrétiens dans le monde. Choisir non pas de suivre les hommes, de suivre ton autorité.
Amen.
Guéris, Seigneur, tous ceux qui ont mal au genou et qui
Amen. Puissance dans ma vie, ton amour, la puissance dans ma vie, et je veux te louer pour mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer à toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Nous allons chanter un chant. Je ne suis pas esclave de la peur.